Vous êtes sur RTL.
8h sur RTL, bonjour à tous.
RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan, Agnès Bonfillon.
Et bonjour Alexandre.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
L'inquiétude grandit après la disparition de deux jeunes originaires de l'Aude.
On ne sait pas ce qui est arrivé à Julien et à Gabriel le 3 décembre dernier. Ces deux intérimaires de 25 et 26 ans sont partis rendre visite à un de leurs amis dans les Alpes de Haute-Provence. Et c'est alors qu'ils se dirigeaient chez un autre ami dans le Vaucluse qu'ils ont disparu sans laisser de traces. Leur voiture n'a pas été retrouvée. Ils habitaient à Malve en Minervois, près de Carcassonne, Patrick Hisson.
Tout près du domicile de Gabriel, l'un des deux disparus, ce voisin est comme beaucoup dans le village très pessimiste.
C'est un gentil garçon parce qu'on le connaissait avant depuis qu'il était tout petit.
Vous en pensez quoi de tout ça?
Les flics le diront.
Vous pensez plutôt à un accident ou à autre chose?
Non. J'en dis pas trop parce qu'avec ce genre de truc, on est toujours emmerdé. Alors voilà.
À un kilomètre de là, chez le père de Gabriel, c'est Nicole, sa grand-mère, qui a vu son petit-fils en dernier. Gabriel a quitté son domicile sans carte bleue et sans papier.
Il n'avait pas d'argent. Moi, il m'avait demandé 250 euros avant de partir. Il m'a dit je te les rendrai demain soir quand je rentrerai. Et voilà, c'est tout. Il espérait toucher 1000 euros à Marseille, là-bas.
Il est parti avec Julien, que vous connaissiez aussi?
Oui, c'était des amis d'enfance. Moi, je pense plutôt à un guet-apens, une drogue ou des trucs comme ça.
Et pour Nicole et pour Jean-Pierre, le père de Gabriel, l'attente est de plus en plus difficile à vivre.
Plus qu'inquiète, angoissée, on n'arrive à plus avoir d'espoir, voilà.
On est de plus en plus inquiets, quoi, ouais. Ça va bientôt faire un mois et c'est pas normal qu'en un mois, on n'ait pas un brin d'information, quoi.
Si aucune piste, comme l'accident ou la fugue, n'est officiellement refermée, pour les proches des deux disparus, c'est bien un autre scénario qui est aujourd'hui redouté.
Un reportage de Patrick Hisson dans l'Aude pour RTL.
Entre le gouvernement et les syndicats, les discussions doivent reprendre le 7 janvier sur la réforme des retraites, mais l'affrontement se poursuit dans la rue et dans la presse ce matin.
Oui, hier ce sont plus de 10 000 personnes qui ont défilé à l'appel des syndicats à travers toute la France. Objectif, montrer que le mouvement ne fait pas de trêve, même pendant la période des fêtes. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, dénonce dans le journal du dimanche ce matin une pression qui s'exerce de façon anormale sur une partie des cheminots, je cite. Il s'en prend notamment à la CGT, qu'il accuse de pratiquer un syndicalisme d'opposition systématique, un syndicalisme même d'intimidation. De son côté, le leader de la CGT, Philippe Martinez, attribue le bordel, je cite, au gouvernement qui joue le pourrissement du conflit, selon lui. Une grève qui perturbe notamment la circulation des trains pendant les vacances. Serge Peillot s'est rendu en gare de Chambéry où les usagers sont partagés entre ras-le-bol et solidarité.
C'est pas du service public. Il y a des gens qui peuvent pas aller travailler. C'est pas bien ce que vous faites.
Ah oui, mais on reconnaît ça. Le problème, c'est que quand même le gouvernement, ça fait quand même depuis 2-3 mois qu'il était au courant qu'il allait avoir une manifestation, une grève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les yeux. Et il a attendu le pourrissement.
Ça ne nous simplifie pas la vie, c'est tout. C'est formidable, le droit de grève, je suis ravie. Mais pour nous, c'est vraiment difficile, quoi.
On comprend cette gêne.
C'est trop long.
Sûr. Mais après, la longueur, malheureusement, je la supporte aussi.
Moi, je viens de Bruxelles et c'est la galère. Enfin bon, vous me direz, c'est pour les vacances, mais c'est quand même très compliqué. Je ne suis pas d'accord que vous preniez les gens en otage.
Est-ce que vous savez ce que c'est que d'être pris en otage, madame?
Circuler, c'est une des libertés essentielles, vous savez, dans un pays comme la France.
Moi, j'en ai marre de payer pour les privilèges, je suis au régime général.
Nos privilèges, on se les paye avec une surcotisation, monsieur.
Je suis tout corps avec vous et il faut continuer. Je pense qu'il faut rien lâcher.
Très bien, merci madame. On continue.
Je suis bien content qu'ils soient là pour s'opposer à cette réforme parce qu'en faisant grève, ils nous soutiennent aussi, quoi. Je leur donne vraiment pas tort.
Bon, merci. Bonnes vacances.
Des propos recueillis par Serge Peillot à la gare de Chambéry pour RTL. Comptez encore 6 TGV sur 10 ce dimanche, 4 TER sur 10, un Transilien sur 5. Côté métro à Paris, trafic normal uniquement sur les lignes 1 et 14. La ligne 2 est partiellement fonctionnelle, mais seulement jusqu'à midi.
Les impôts vont baisser à partir du mois de janvier.
Le gouvernement l'avait annoncé il y a un an pour tenter d'apaiser le ras-le-bol fiscal. Un effort de 5 milliards d'euros concédé face au mouvement des Gilets jaunes. Marion Ferrer, quasiment tout le monde devrait en profiter.
Oui, car ce sont les classes moyennes qui sont principalement ciblées par ce cadeau fiscal. Le taux de prélèvement à la source va diminuer pour ces ménages. Pour la première tranche imposable, 12 millions de foyers, ce taux va passer de 14 à 11%. Concrètement, c'est 350 euros de moins à payer par an. Pour ceux imposés à 30%, l'économie sera de 126 euros. Alors, pas de panique, pas question de se ruer dans les centres d'impôts pour bénéficier de cet avantage. Les agents du fisc Basque ont déjà recalculé ces taux et la baisse se ressentira dès le mois de janvier. C'est le principal objectif du gouvernement, que l'allègement fiscal soit visible directement sur la feuille de paie des Français, leur montrer qu'ils ont bien entendu la colère portée par les Gilets jaunes depuis plus d'un an.
Les explications signées Marion Ferrer pour RTL.
Figurez-vous que dans le bassin d'Arcachon, la préfecture va mettre en place 2 marées hautes supplémentaires par jour pour faire plaisir aux Parisiens.
You are fake news.
Fake news.
Ben oui, évidemment que c'est faux. Dans un instant, on va parler des vraies et des fausses informations, justement.
RTL Matin.
.org. RTL Matin, 8h07, Alexandre de Saint-Aignan, Agnès Bonfillon pour la suite du journal.
À l'école, des cours pour apprendre à reconnaître une fake news.
62% des jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer selon une enquête réalisée par la MAIF. Et ils sont 15% à ne pas savoir comment faire pour vérifier une information. Alors avant de cliquer sur partager, des formations d'éducation au numérique sont organisées dans les écoles Marie Guerrier.
Il y a ceux comme Asia qui s'inquiètent.
Parce que j'ai peur de tomber sur une fausse information et y croire bêtement. Surtout à notre âge, on est facilement influençable.
Avec Lisa, ça paraît tout simple.
On regarde le nom du site déjà pour voir si c'est une source fiable. Par exemple, si c'est le Gorafi, on sait que c'est une satire.
Problème, l'enquête de la MAIF montre que 78% des jeunes n'identifient pas le Gorafi comme un site parodique. Choukri Kouas, du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, organise des ateliers dans les écoles.
Qui permet aux élèves de déclencher les bons réflexes, croiser ses sources, vérifier un contenu avant de le partager sur les réseaux sociaux, ne pas s'arrêter au titre, vérifier l'émetteur d'une vidéo.
Johan est devenu plus vigilant.
Par exemple, l'incendie de l'Amazonie et que quelqu'un avait utilisé une photo mais qui n'était pas de la bonne date, ça par exemple j'aurais pu tomber là-dedans, oui.
Il y a urgence à éduquer au numérique, dit Dominique Mahé, le président de la MAIF. L'assureur a développé un atelier itinérant.
Notre camion MAIF Numérique Tour qui arpente les routes de France s'est arrêté dans plus de 120 communes. Et il accueille les jeunes, les classes, mais aussi les familles pour faire en sorte que cette éducation au numérique se développe davantage encore.
30% des jeunes et 55% des adultes disent aujourd'hui pratiquer la vérification d'informations.
Marie Guerrier pour RTL.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein.
Oui,
espérons que cela continue. Savez-vous vraiment qui se cache derrière le nom de la rue où vous habitez à Bordeaux? Vous pourriez avoir des surprises.
6 rues ont été identifiées. Elles portent les noms d'anciens négriers des vendeurs d'esclaves. Mais plutôt que de les faire tomber dans l'oubli, la municipalité veut assumer son passé sombre en rajoutant bientôt des plaques explicatives, Denis Grandjou.
Oui, nous sommes près du jardin public de Bordeaux sous une plaque bleue qui indique le cours Journu-Aubert, du nom de Bernard Journu-Aubert, un riche négociant de Bordeaux du XVIIIe siècle avec sa famille.
Cette famille est responsable d'au moins 6 expéditions négrières. Il faut savoir qu'une expédition négrière, c'est-à-dire un bateau qui fait le commerce triangulaire, c'est un bateau qui amène au moins 300 passagers, enfin 300 esclaves.
Karfa Diallo est le président de l'association Mémoire et Partage qui lutte depuis plus de 20 ans pour que les biographies exactes de ces personnages qui ont donné des noms à des rues de Bordeaux soient communiquées au grand public.
Les autorités nous disent, mais si on décide de débaptiser toutes les rues des gens qui en sont enrichis grâce à l'esclavage, il n'y aurait plus de rues à Bordeaux. Mais ça, c'est un autre combat que nous ne lâchons pas. Mais pour l'instant, nous prenons ces 6 rues qui sont des rues de négriers. Dans 1 siècle, dans 2 siècles, on puisse, en passant sur cette rue, savoir que ce crime a existé, que des hommes ont pu s'enrichir de façon tout à fait légale de la traite des Noirs et de l'esclavage.
Les 6 plaques explicatives seront fixées d'ici quelques jours à Bordeaux.
Grandjou à Bordeaux pour RTL. À l'étranger, près de New York, une attaque au couteau en pleine célébration de Hanouka. Un homme a attaqué la résidence d'un rabbin. Il a blessé plusieurs personnes avec un couteau. Un suspect vient d'être arrêté par la police.
En Chine, pour les footballeurs, Alexandre, la ruée vers l'or, c'est bientôt terminé.
Oui, le président de la fédération chinoise veut désormais encadrer le salaire des footballeurs pour le début de la saison prochaine qui débute en février. Quant à Vincelin, ça risque de faire réfléchir les stars du ballon rond qui faisaient jusqu'à maintenant fortune en s'exilant à l'autre bout de la planète.
Oui, cure d'austérité pour le très dépensier football de l'Empire du Milieu. La rémunération des futurs joueurs étrangers ne dépassera plus les 2,5 millions d'euros nets annuels. Confortable, mais loin, très loin des plus de 20 millions d'euros par an que touchent les Brésiliens Oscar et Hulk à Shanghai, par exemple. De quoi décourager les joueurs, selon l'agent Christophe Futo.
Accepter de se rendre
dans un championnat dont personne ne parle, où la pollution est un véritable problème, si vous n'avez pas cette compensation financière, vous n'allez pas en Chine.
Les primes seront encore autorisées, mais rien de comparable aux émoluments actuels. Alors, une décision salutaire pour enfin développer les footballeurs locaux, c'est l'intuition d'un autre agent influent, Franck Bellassène.
D'abord déceler les talents, les faire travailler, et peut-être faire venir une formation étrangère qui va leur permettre d'évoluer dans leur approche technique et tactique pour le mettre en ordre de bataille et avancer comme il faut.
Pas d'encadrement salarial prévu pour les nombreux entraîneurs étrangers de la Super League chinoise comme Fabio Cannavaro ou l'ancien lyonnais Bruno Genesio. Leur savoir-faire pourrait enfin bénéficier uniquement aux locaux, moyennant quand même plusieurs millions d'euros.
Quentin Vasselin pour RTL. En football, toujours à Monaco, un petit tour et puis s'en va. Leonardo Jardim va être licencié 11 mois seulement après le retour surprise de l'entraîneur portugais. Il sera remplacé par l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Robert Moreno.
Mais on dit jamais 203, alors peut-être qu'il reviendra.
Peut-être.
Peut-être. À tout à l'heure, Alexandre. En tout cas, vous, c'est sûr, on vous retrouve à 9h.
C'est certain.
Allez, direct.